Bonjour à tous, on va faire aujourd'hui une émission un peu spéciale. On essaye un nouveau format pour Parlez-moi d'IA. On va faire un Parlez-moi d'IA revue d'actu avec des super invités. Parlez-moi d'IA.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
C'est une machine qui ressent les choses.
On nous raconte n'importe quoi sur l'IA.
Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit?
Moi, je n'en dis rien du tout.
La créativité, elle reste du côté de l'humain.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément, bienvenue sur Parlez-moi d'IA. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils sous leurs aspects sociétaux, culturels, sociaux, éthiques et pourquoi pas politiques. Cette semaine, nous testons une nouvelle formule d'émission avec une revue d'actualité sur l'IA avec deux super invités. Dites-nous ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux et puis peut-être faire via le formulaire de feedback des auditeurs. Ça nous intéresse beaucoup de savoir si ce format vous a plu. Vous êtes bien sur Cause Commune, la radio des possibles. Merci à notre directeur d'antenne Olivier Gréco de nous permettre cet espace de liberté et d'échange. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web cause-commune.fm et sur son app mobile Android et iPhone, sur la bande FM 93.1 et le DAB+, également sur toutes les plateformes préférées de podcast. Si cette émission vous plaît, merci de vous abonner, prendre 3 secondes éventuellement pour nous mettre une petite étoile, voire même 5 étoiles, ça serait intéressant sur Apple Podcast, sur Spotify, le petit pouce bleu sur YouTube, enfin toute la gamme, et c'est notre seule récompense, et en plus cela fait connaître notre émission. Globalement, ça manipule les algorithmes, et en fait c'est cool de manipuler un algorithme.
Vous écoutez Parlez-moi d'IA.
Alors cette semaine, je suis ravi d'accueillir autour de la table de Parlez-moi d'IA dans le studio de Cause Commune deux super invités. D'abord Marie Couvet, data scientist, freelance, passeuse de tout ce qui la passionne sur l'IA. Elle sensibilise aux enjeux et aux impacts de la tech et de l'IA. Bon, si sa voix vous dit quelque chose, si vous la reconnaissez, sa voix, c'est que vous avez reconnu Madame Crinquant, la fondatrice de la société Avenir IA, parce qu'elle avait joué ce rôle-là dans notre épisode spécial IA et Parcoursup. Bonjour Marie.
Bonjour.
Merci d'être là en plateau. Et il y a aussi Olivier Martinez, consultant en transformation numérique dans les médias et globalement pour les marques, notamment les transformations bien sûr liées à l'IA. Olivier, quand on parle actu avec toi, toi tu es un peu le maître en la matière puisque tu es le créateur et l'animateur de IA Pulse, la newsletter d'actu sur l'IA que vous pouvez recevoir tous les samedis matins en vous inscrivant sur ia-pulse.news. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Bienvenue à toi sur Merci. Parlez-moi d'IA et en plateau. Alors je sais pas si on va se tutoyer ou si on va se vouvoyer, ça va être la complexité de cette émission. Allez, on se tutoie, c'est un truc de fou sur Parlez-moi d'IA, jamais on se tutoie. Et puis donc on a préparé cette émission pour vous parler de plein d'actualités parce qu'en fait la période est assez riche quand même de ce point de vue-là. C'est un peu la folie furieuse. On avait calé cette date depuis très très longtemps et là au moment où on enregistre, c'est un feu d'artifice dans l'actu. Vous avez eu des difficultés à sélectionner les sujets de cet épisode, les amis ?
Marie.
Ah, il y avait de quoi faire en tout cas.
Ouais, il y avait beaucoup. En tout cas, ces dernières semaines ont été assez remplies.
Ta newsletter a explosé, Olivier, c'est ça hein?
C'est un peu ça. Les dernières semaines sont très compliquées. Mais en fait, ça fait un an que c'est très compliqué, l'actu sur l'IA générative en tout cas.
Alors aujourd'hui, on a fait une petite sélection de sujets, chacun dans. Et en les partageant aussi. On vous propose aujourd'hui. Marie, tu voulais nous parler, parce qu'on approche, on est à quasiment 10 jours des élections européennes. Tu voulais nous parler élections et AI et Gen AI, donc de l'IA générative. Qu'est-ce qui a suscité ton intérêt sur ce sujet?
C'est vrai qu'au premier abord, l'IA et les élections, ça n'a pas de lien direct. Mais alors, du coup, on a les élections européennes qui approchent le 9 juin prochain. Et en fait, moi, je voulais parler d'IA générative dans le contexte des élections, parce qu'en fait, on a tout un panel de deepfakes qui peuvent exister. Et donc, du coup, on peut facilement, plus ou moins, manipuler les élections, faire des deepfakes des différents candidats. Pour l'instant, on n'en a pas encore vu, mais peut-être que ça arrivera. en tout cas à ce jour, à l'heure où on enregistre cette émission. Et donc du coup, qu'est-ce qui va devenir pour l'IA générative sur les élections? Quel va être l'impact? C'est un peu la question que je me pose. On va voir si on a des deepfakes qui apparaissent.
Alors un deepfake, peut-être nous rappeler ce que c'est exactement par rapport à l'IA.
Alors du coup, un deepfake, ça va être une vidéo, une image ou un son, une voix, qui va être complètement générée par de l'IA, donc qui est complètement fausse. Et on peut se baser, alors soit on crée une nouvelle personne qui n'existe pas, et donc là, bon, très bien. Par contre, on peut aussi créer ou utiliser l'image de quelqu'un qui existe. Donc on peut imaginer faire un deepfake de, je sais pas, Emmanuel Macron, par exemple, et lui faire dire tout et n'importe quoi. Le mettre, je sais pas, sur la plage en maillot de bain, en train de raconter ses vacances, par exemple. Là, ça serait plutôt gentil. Par contre, si on commence à faire l'apologie de certaines idées qui pourraient être négatives pour la société, bah, ça peut devenir un problème.
Oui, c'est-à-dire que si on reconnaît finalement que c'est un deepfake, parce qu'on le voit en maillot de bain, donc on imagine qu'effectivement, il y a peut-être un petit montage ou il y a peut-être un petit... Ça va. Mais si ça commence à être un discours sérieux, où là, par contre, on manipule un peu le discours, on manipule les idées qui sont utilisées, ça peut devenir effectivement une tromperie par rapport aux électeurs. C'est vrai que là, pour le coup, ça peut être compliqué. Alors, tu disais qu'il n'y en avait pas eu, mais globalement, on en a repéré quand même en préparant cette émission. Alors, c'était pas exactement sur les élections européennes, tu as raison.
On n'en a pas vu des candidats aux élections européennes, on va dire, mais on en a déjà vu sur les réseaux sociaux. Alors, du coup, on en a eu sur TikTok notamment avec Amandine Le Pen, il me semble, qui du coup était une jeune femme. En maillot de bain sur la plage et qui faisait l'apologie et des idées de Marine Le Pen et du Front National globalement. Et donc du coup, c'est des vidéos qui ont circulé énormément, notamment auprès des jeunes et qui ont eu un impact assez fort parce que c'est quelqu'un à qui peuvent s'identifier et qui vont du coup récupérer les idées sans forcément se poser la question de est-ce que c'est une personne réelle, qu'est-ce qu'elle raconte, est-ce que je veux m'identifier à elle ou pas, et récupérer ses idées sans forcément avoir de regard critique derrière.
C'est vrai qu'on a eu un peu un questionnement. On s'est demandé si c'était vraiment des vidéos générées par le parti en question de Madame Maréchal. Mais en fait, de Marion Maréchal, je vais y arriver. Mais en fait, on ne sait pas trop. En fait, on ne sait pas si ça a été vraiment généré par le parti en question ou si, in fine, c'est un montage pur et dur pour embêter Maréchal.
Oui, on ne sait pas, mais c'est le problème et la beauté des deepfakes, c'est que tout le monde peut le faire, parce que techniquement, aujourd'hui, les technologies sont disponibles pour tout le monde. On peut tous utiliser Midjourney, ChatGPT, etc. Et donc, du coup, potentiellement, tout le monde est capable de faire ce genre de vidéo, ce qui est un problème.
Et il y a aussi une vidéo qui reprenait aussi Marine Le Pen, non ? Potentiellement dans le même genre, il me semble, non ?
En fait, il y avait deux comptes sur TikTok. Ouais. Il y avait Amandine Le Pen et il y avait, je ne sais plus le nom de Maréchal, mais c'était Lisa Maréchal.
Lisa Maréchal.
Je ne sais plus le prénom, mais ça reprenait les deux. C'était fait.
On va retrouver les liens dans la description de cet épisode.
Et c'était fait vraiment de manière... professionnel, parce que les outils, effectivement, les outils de génération et d'images, comme de vidéos, comme de sons, en fait, sont accessibles, comme le disait Marie, à tout le monde et donnent de la qualité énorme. Cloner une voix, ça se fait en quelques secondes maintenant. Et c'est aussi bien problématique, effectivement, dans le type de campagne électorale dont on parle, mais c'est problématique dans la vie de tous les jours. Cloner sa voix, se faire cloner sa voix. Ici, on enregistre, on est dans un podcast, le podcast est diffusé, quelques secondes de nos voix suffisent à les cloner. Bon, moi j'ai fait l'essai sur la mienne, donc elle est déjà clonée, hein, vous embêtez pas à essayer de la cloner,
c'est fait,
mais ça marcherait très bien, voilà.
D'ailleurs, on ne sait pas trop si c'est toi là qui es en train de parler. Je ne sais pas si je ne suis pas en train de faire une manipulation d'algorithme.
Je ne suis pas moi.
Bon, après, c'est vrai que globalement, en fait, le problème, c'est que quand une campagne comme celle des européennes a autant de mal à commencer, c'est finalement cette espèce d'écume des deepfakes qui est le plus visible et qui va... Parce qu'on est à 10 jours de l'élection, donc c'est le risque, c'est que ça reste... C'est ce qui reste finalement de la campagne, c'est-à-dire des choses qui sont complètement fausses, qui n'ont rien à voir avec le débat, qui ne sont pas les vrais arguments et les vrais programmes des candidats, c'est quand même catastrophique.
C'est catastrophique. D'un autre côté, pour l'instant, dans cette campagne-là, des élections européennes, on en a vu très très peu. Enfin, en tout cas, moi, ma connaissance, j'en ai même pas vu en vrai pour l'instant. Peut-être que je suis passé au travers. Ça se trouve, j'en ai vu et je les ai pas remarqués. Voilà, il faut aussi prendre un peu de recul sur ça. Au contraire de la campagne aux États-Unis. La campagne des élections pour les présidentielles aux États-Unis, où là, il y a eu des cas avérés. Hein, je reprends mon clonage de voix parce que la voix de Biden a été clonée pour faire du phoning, parce qu'aux États-Unis, on peut faire du phoning pendant la campagne pour appeler les électeurs. Et la voix disait aux électeurs, ne vous déplacez pas pour aller voter, c'est pas la peine, c'était pendant. Déplace-toi, quoi, en fait. Et puis des montages photos, de la génération de montages photos avec Trump dans certaines situations, etc. etc. Donc on voit que ça peut... En tout cas, c'est un nouveau canal de propagande, on va dire. Un nouveau moyen de faire de la propagande politique.
Voilà. Et on peut mettre quand même une pièce sur le fait qu'effectivement, les grands médias vont avoir des rubriques spécifiques pour travailler, justement, et pour dénoncer ces différents deepfakes et montages, enfin, en tout cas, on l'espère, et que on va tous ne pas tomber dans le panneau des choses, même si elles sont très bien faites. Tu voulais rajouter quelque chose, Marie, sur ce sujet?
Du coup, je vais juste donner l'alerte aux différents auditeurs et auditrices que faites attention à ce que vous voyez, notamment dans les prochaines semaines, et ne croyez pas forcément toutes les vidéos et les images que vous allez pouvoir voir.
Et vous allez voir que c'est parce qu'on a dit que la campagne n'avait pas commencé, que juste après le post de cette émission et le fait que ça soit diffusé, ça va être complètement explosif. Deuxième sujet d'actu que on avait pensé, c'est toi Olivier qui voulais en parler, c'est finalement la grande annonce. Alors après l'annonce d'OpenAI dont on va reparler peut-être après, il y a eu la grande annonce de la semaine de Google. Alors quelle était cette annonce de Google dans l'IA, Olivier?
Alors en fait, il y en a eu plusieurs. La semaine dernière, c'était un peu une folie quand même entre OpenAI et Google à deux jours d'intervalle, du jour au lendemain en fait. Alors Google a annoncé plusieurs choses, donc sur des modèles sur Gemini qui était mieux maintenant intégré, plein de choses comme ça. Mais surtout, Google a annoncé que l'AI Overviews, c'est-à-dire ce qu'ils avaient pour l'instant comme test de mettre de l'IA générative dans les résultats de recherche, passé en production. Ça faisait un an qu'ils le testaient avec un truc qui s'appelle SGE, Search Generative Experience, où en gros, en tant qu'utilisateur, fallait être volontaire pour voir des résultats, en tout cas une partie des résultats de recherche, avec une génération d'un résumé de ces résultats par l'IA.
Au-dessus des liens, c'est ça?
Au-dessus des liens, classique. Alors c'est un petit pavé qui est écrit au-dessus des liens classiques, ce qui fait que ça fait descendre les liens bleus qu'on connaît tous, ça les fait descendre très très bas dans la page. Et t'imagines bien que ça soit, par exemple, les éditeurs ou les e-commerçants, tout le monde a peur de ça, en se disant, je ne vais plus avoir de trafic sur mon site, en tout cas une grosse baisse de trafic.
Et parce que du coup, les utilisateurs, ils restent sur Google, ils ont la réponse à leurs questions, ils n'ont même plus à cliquer sur un lien pour aller chercher le reste de la réponse.
C'est exactement ça. Alors, je vais tempérer aussi un peu ça, parce que, déjà, ça fait un an que c'est en test. Google là le lance aux États-Unis, donc plus en test, ça passe en production. C'est accessible à tous les utilisateurs de Google. Deux petites choses. Une première chose, c'est que les premiers retours des utilisateurs sont quand même pas super favorables. Après, ça veut rien dire non plus, c'est le début.
En termes de qualité, c'est quoi?
Non, c'est pas ça, c'est qu'ils sont pas contents de pas pouvoir enlever l'option.
D'accord.
Tu vois. Donc en fait, l'une des questions les plus posées la semaine dernière sur Google, c'était comment je désactive l'AI Overviews.
Il y avait un Overviews qui résumait du coup la réponse à la question, qui disait non, on peut pas en fait.
En tout cas, on peut pas comme ça. Après, il y a des techniques pour le faire, on peut télécharger une petite extension dans son navigateur et ça le fait tout seul. Et puis la deuxième chose qu'il faut dire aussi, c'est que en fait Google, ils sont pas totalement fous non plus. Ils vivent aussi du clic. Donc ils vont pas passer en full IA comme ça du jour au lendemain et faire baisser le trafic
Il doit y avoir un peu de schizophrénie quand même chez eux, parce que en même temps ils se font manger des parts de marché par ChatGPT dans les recherches et par Perplexity par exemple, qui sont deux autres services où qui on peut poser une question et qui va nous donner une réponse, et ils voient bien que finalement ils perdent certaines questions, et en même temps effectivement comme tu le dis, ils vivent de la réponse et du clic sur la réponse, quoi.
Alors, ils ont trouvé quand même une parade, là. Ils viennent de sortir aujourd'hui ou hier. Ils ont fait une annonce ils vont intégrer des annonces publicitaires en bas de ce petit bloc. mais à la méthode Google, voilà.
Ça t'inspire quelque chose, Marie, sur ces petites insertions de liens payants et rémunérateurs?
Bon, c'est pas très étonnant de leur part. Non. Il faut bien qu'ils fassent de l'argent. Après, moi, le truc que je vois, c'est que je comprends totalement les utilisateurs qui voudraient désactiver cette génération d'IA et qui peuvent pas, parce que, en soi, on n'est pas obligé d'utiliser un outil. On devrait avoir le choix de le faire ou pas. Et moi, je vois un risque surtout très important, c'est que les gens y croient ce qui a été généré sans aller voir plus loin, sans vérifier les sources, sans vérifier l'information. Et donc, du coup, potentiellement, si Google se trompe ou si la génération se trompe, tout le monde va avoir une mauvaise réponse.
Moi, peut-être que je suis un utilisateur lambda, mais j'aime bien dans Perplexity, c'est justement ça, c'est ce mélange entre la source qui a permis de construire la réponse et la réponse. Alors, c'est vrai que du coup, il n'y a plus de lien. Perplexity, il n'y a plus de lien. À part les liens vers les sources qui auraient permis de construire la réponse. Bon, après...
Après aussi, il faut voir que Google, ça fait des années qu'ils essaient de garder le plus de trafic possible. Et il y a ce qu'on appelle la P0 depuis des années. Hein. C'est-à-dire la petite réponse, quand ils pouvaient fournir une réponse déjà au-dessus, qui n'était pas générée par l'IA, hein, du coup. Hein,
qui venait de Wikipédia, des fois, non?
Des fois, c'était Wikipédia, des fois, c'est autre chose. Ils le font, hein, depuis des années. Et ça n'a pas non plus tué le trafic vers les éditeurs. Alors par contre, ça a tué toute une catégorie d'éditeurs. Hein. Il y a quelques années, par exemple, les convertisseurs de monnaie, de mettre en yards, un truc comme ça. Ça marchait très très bien, mais ça a disparu du jour au lendemain quand Google l'a mis en P0 et tu peux le faire directement. Voilà, un centimètre, ça fait combien en pouces? Voilà, direct à la réponse. Mais en tout cas, voilà, c'est pas nouveau. En tout cas, c'est un mouvement que Google a très 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 rapidement démarré en fait dans sa vie d'entreprise. En fait. Dès 2008-2009, tu as des premières incursions de ça. Il y a eu les billets d'avion à un moment donné, je sais pas si tu te rappelles. Ça un peu baissé, on n'en parle plus, mais à un moment, Google voulait prendre tout le marché des billets d'avion, en fait. Hein. En gros, ça voulait dire ça. Hein.
Mais ils avaient été rappelés à l'ordre, il me semble, non, par l'Europe, sur ce sujet.
L'Europe, et puis même aux États-Unis, hein, par les autorités, mais...
Ok, écoutez, merci pour cette actu, effectivement. Alors, ça, c'était l'actu de Google. Maintenant, il y a la grande actu du moment de OpenAI. Donc, OpenAI, c'est le promoteur, l'entreprise qui est derrière ChatGPT. Et donc, nouvelle version de ChatGPT, GPT 4o. Alors, je ne sais pas si vous risquez à le dire en anglais. Et du coup, alors que pour le coup... qui veut réagir à cette sortie, cette nouvelle sortie de OpenAI? Marie, tu veux, t'as une réaction particulière, notamment sur peut-être la question de la voix utilisée ou des voix utilisées?
C'est encore une voix féminine, mais bon, c'est pas nouveau, c'est comme Alexa et compagnie. Après,
je sais pas si on pouvait changer la voix d'Alexa.
Alexa, je sais pas.
Je suis pas sûr. Hein.
Google, t'as toujours pu changer. Ouais. Donc, avec Google, tu peux choisir la voix. Là, dans le ChatGPT, tu peux changer la voix.
Hein. Il y a des voix masculines et des voix féminines. Il y a des voix masculines
et féminines. Mais c'est vrai que quand ils font des démos, là, c'était très clair. Quand ils ont fait leur démo, ils ont fait une démo avec une voix féminine qui était largement inspirée de celle de Scarlett Johansson et de Her, dans Her. Et donc, d'où le problème de ces derniers jours où Scarlett Johansson a un peu tapé du poing sur la table en disant arrêtez d'utiliser une voix qui est un peu trop similaire à la mienne, surtout que je voulais pas travailler avec vous. Puisque vous m'avez demandé l'année dernière de travailler avec vous, je vous ai dit non. Essayez de respecter un peu ce que je vous ai dit. Voilà.
Ouais. Et donc, ça sent le procès, quand même, du coup.
Les dernières nouvelles, c'est que oui, elle a confié ça à un cabinet d'avocats, elle va pas se laisser faire. Enfin, là, on est aux États-Unis. De toute façon, tout se règle avec la justice aux États-Unis. Hein. Je sais pas s'ils iront jusqu'au procès, mais en tout cas, tout se règle avec des avocats. Donc ils y vont à fond. Faut pas oublier quand même que de l'autre côté, chez OpenAI, ils ont quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens. Ils ont Microsoft qui est derrière. Donc, en termes financiers, ils peuvent tenir très, 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 très longtemps avec des cabinets d'avocats. Enfin, voilà, ils sont capables de se payer la moitié de la place judiciaire aux États-Unis. Donc, ça va durer assez longtemps. Mais en tout cas, ce que ça marque pour moi, c'est cette manière de faire qu'ils ont depuis des années, de ne pas respecter, en fait.
De sortir le truc et de voir après, quoi.
Ouais, voilà. Et de ne pas respecter a priori certaines règles, ouais. que ce soit les droits d'auteur ou la volonté de quelqu'un de pas travailler avec eux.
Voilà. Après, l'anecdote n'est pas étonnante parce que du coup, il semblerait que ça soit son film préféré, du coup, à Salma Hayek. Et du coup, il réalise ses rêves en fait. C'est un enfant, c'est un enfant qui réalise ses rêves. Il a créé le logiciel qui répond au film qu'il a adoré. Est-ce que c'est un film qui fait référence pour vous, Her?
Oui, ça fait référence. Et effectivement, Sam Altman, il est comme un gamin devant ça. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il laisse paraître. Et ça fait comme tous à peu près les autres patrons de Silicon Valley. Enfin, c'est des grands gamins. D'un autre côté, quand même, ce film, il n'est pas très très sympa en fait.
Hein. Non.
Enfin, il est triste. Hein.
Bah, il
D'ailleurs,
présente.
C'est un homme qui est tout seul en fait.
Ouais.
Voilà, c'est un homme qui est tout seul et qui s'enferme tout seul.
Qui discute avec ses oreillettes.
Tout seul. Hein. Ouais. Je sais plus. Il y a un moment, je crois qu'il y a sa femme, un moment qui l'appelle, enfin, son ex-femme, et qui lui parle de ça en lui disant, mais en fait, t'es tout seul. Et lui répond non, je suis avec elle. Mais en fait, non. Enfin, tu parles avec une IA quoi.
Bon, et c'est vrai que ça relève un peu aussi du reste de l'annonce. C'est-à-dire que quand même, on est nombreux maintenant à avoir fait des tests sur ChatGPT 4o. Bon, et alors, après, il y a tous ces problèmes d'anthropomorphisme, de liens qu'on va se créer avec l'IA. Mais c'est quand même assez bluffant. Alors, ça marche un peu moins bien que la démo quand on le fait sur son propre téléphone, comme par hasard.
Bizarrement.
Mais vous avez testé, nous, 4 ans ou pas, du coup, Olivier?
Oui, j'ai testé. Alors, j'ai testé aussi bien en dialogue. Donc avec la voix, effectivement, c'est pas comme dans la démo. Effectivement, il y a un temps de latence qui est un peu plus long que ce qu'il y a dans la démo. Après, c'est quand même pas mal fait. La voix, en tout cas, la voix qu'il y a eu dans la démo est pas encore disponible. Hein, le système en lui-même de dialogue tel qu'il avait été montré n'est pas encore disponible, même pour les utilisateurs payants. Donc ça va arriver après. C'est aussi ça, souvent les démos aux États-Unis hein, d'OpenAI et les autres, ils te montrent un truc, mais en fait c'est pendant 3 semaines, un mois et demi.
Tu fais référence à Sora, c'est ça?
Ouais, par exemple, mais tout le reste en fait c'est toujours un peu comme ça.
Donc Sora, c'est le produit de génération de vidéos
qui
a tant fait parler de lui, mais que personne ne peut utiliser à part...
S'il y a 20 personnes.
Oui, c'est ça.
Voilà. c'est déjà pas mal. Après, pour le reste, la dernière version de GPT, en tout cas celle qui est disponible pour les utilisateurs payants ou gratuits, hein, parce que les utilisateurs gratuits ont accès. Il y a plusieurs choses. Hein. Déjà, elle est réellement multimodale dans le sens où on peut mettre des documents à l'intérieur et tout type de documents, et le modèle les analyse. Alors après, bien ou pas, je sais pas, mais voilà, chacun soit son opinion pour travailler avec ou pas. Et puis c'est vrai qu'en tout cas, il répond plus vite. C'est-à-dire qu'on y avait depuis un petit moment quand même le temps de latence, l'inférence, etc. Quand on avait des échanges avec ChatGPT, quand on était en train d'itérer en mettant plusieurs prompts, machin, etc. Il y avait des moments, c'était super lent. Là, pour l'instant, c'est plutôt assez rapide. Donc ils ont dû travailler, je sais pas à quel niveau, mais ils ont dû travailler sur ça pour que ça soit beaucoup plus fluide qu'avant.
Ouais.
Je sais pas si c'est uniquement de la puissance matérielle, je pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses derrière. De toute façon, on sait pas très bien comment il est construit ce modèle. On sait pas du tout puisque c'est opaque totalement.
Marie, tu l'as essayé ou pas?
Non, pas encore. Je suis un peu réticente.
T'as pas l'air d'être passionnée par le modèle.
C'est pas passionné, c'est pas un problème de passion. Je suis réticente globalement aux IA génératives et je comprends la hype autour et de dire oui, c'est trop génial. Mais
c'est intéressant ça. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as ce point de vue sur les IA génératives?
Moi j'ai un point de vue, on va dire contraire à la majorité des gens, et parce que globalement j'ai l'impression que tout le monde pense que c'est hyper génial, que c'est trop cool, sans réfléchir aux conséquences que ça peut avoir, aux différents risques qu'on peut avoir derrière. Et du coup, je suis pas super fan des outils.
Alors, on en a parlé déjà ici, mais qu'est-ce que tu pourrais nous énoncer comme risque auquel il faut faire attention? Parce que nous, effectivement, avec Olivier, on est complètement, on est enthousiaste par rapport à ça, mais on fait pas assez attention, comme toi, au risque. Qu'est-ce qu'il y aurait comme risque potentiel sur ces sujets?
Olivier l'a dit, on n'a aucune façon de savoir comment ça a été fabriqué, ce truc-là. Donc, c'est totalement opaque. Potentiellement, ils ont mis des données qui sont fausses à l'intérieur. Que du coup ça va générer des choses fausses complètement. Derrière, c'est aussi des données que nous on donne Moi, j'ai un peu envie de dire qu'on travaille gratuitement pour OpenAI parce qu'on utilise le service, on le teste, on met des retours à l'intérieur parce que si jamais ça ne nous plaît pas, on va faire régénérer. Donc, OpenAI peut savoir que c'était pas un bon résultat. Donc, du coup, OpenAI nous utilise gratuitement comme utilisateur test et on lui donne des retours.
Tu veux dire que dans ce cas-là, c'est l'algorithme qui nous manipule et pas le contraire ?
Bon, oui, on peut dire ça comme ça, assez rapidement. Donc, il y a plein de choses qui sont autour de ça. Il y a aussi les digital workers dont on n'a jamais entendu parler, les gens qui ont les premiers testeurs de ces algorithmes, qui ont écumé toutes les horreurs possibles que l'IA pouvait générer. C'est des gens dont on n'a jamais entendu parler. En fait, ils ont eu un impact psychologique et physique extrêmement fort, puisque c'est des gens qui ont lu des menaces de mort globalement toute la journée pour dire au modèle, non, tu génères pas ça, ça c'est raciste, ça c'est sexiste, ça c'est dangereux, ça c'est je sais pas quoi.
Merci d'avoir partagé ce point de vue, parce qu'effectivement comme ça nous remet un peu les idées en place à Olivier et à moi sur le sujet, c'est pas plus mal. Donc je voulais finir cette émission sur la grande annonce, en fait l'autre grande annonce de la semaine, qui est l'annonce de Microsoft, puisqu'ils avaient annoncé qu'ils voulaient former 100 000 Français, puis là c'est fini, là, on fait x10, ils veulent former 1 million de Français, bon d'ici à 2027, donc c'est pas pour tout de suite, mais quand même, hein, c'est une grosse ambition. Alors vous qui donnez des formations en entreprise ou pour les étudiants ou pour différents publics, qu'est-ce que vous pensez de cette annonce ?
Moi, je pense que c'est de toute façon la formation aux nouvelles technologies et à l'IA en particulier, elle est hyper importante pour tout le monde, que ce soit les plus jeunes ou plus vieux. Moi, je le vois avec mes étudiants qui sont futurs data scientists, donc c'est des gens qui vont travailler dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, ils sont pas capables de voir les risques de ChatGPT, etc. Et donc, effectivement, c'est très très important pour tout le monde d'être formé, y compris les futurs professionnels, mais aussi n'importe quel citoyen qui va utiliser ces outils-là pour comprendre comment ça fonctionne, comprendre comment les utiliser, quels sont les risques, qu'est-ce qu'on peut en faire aussi, parce que la peur de tout le monde, je pense que c'est un peu de « oui, l'IA va prendre mon job
ouais. ».
Potentiellement oui, potentiellement non, ça dépend des jobs, effectivement, mais ce que j'ai envie de dire à tout le monde, c'est que si vous formez à l'IA et que vous savez l'utiliser, vous avez un outil de plus dans votre quotidien, dans votre travail. Et donc, du coup, potentiellement, vous allez peut-être aller plus vite, être plus efficace, optimiser votre temps. Et donc, potentiellement, vous aurez aussi plus de valeur en entreprise.
Sur ce sujet, d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir alors, peut-être pas l'étude entière, parce qu'elle est vraiment très complète, mais l'executive summary de l'étude Labor IA qui vient de sortir et qui est justement très équilibrée dans sa manière d'aborder cette question-là et qui dit à quel point, effectivement, il y a une manière, une mauvaise manière pour les entreprises et pour les gens qui les managers, les décideurs de gérer l'intégration de l'IA dans leur organisation, et puis une manière un peu plus concertée, une manière plus ouverte, une manière plus capacitante. C'est le mot qu'ils utilisent, où justement on est sur une IA qui va accompagner, qui va aider. Je vous recommande, on va vous mettre le lien dans la description aussi, cette étude et ce résumé d'études de Labor IA. C'est quoi ton retour sur cette annonce de Microsoft, Olivier ?
Alors je suis comme Marie, hein. Moi je pense que c'est une bonne chose. D'ailleurs, c'est pas les seuls, hein. Google aussi, hein. Google forme depuis pas mal de mois maintenant les gens à l'IA. On peut voir ça sous un regard de oui, il faut de toute façon se former, ne serait-ce que pour comprendre ce que c'est et ne pas en avoir peur.
Mettre les mains dedans, quoi.
Ouais, mettre les mains dedans. Et puis comme Marie le disait, certains ont peur de perdre leur boulot, etc. Enfin, moi qui en fais vraiment beaucoup en ce moment en formation dans les entreprises, en fait, les gens qui ont un a priori d'avoir peur, une fois qu'ils commencent à mettre les mains dedans et à l'utiliser, ils ont un peu moins peur, voire carrément pas plus peur du tout.
Ouais.
Donc on voit que c'est essentiel, en tout cas, au moins une acculturation pour comprendre ce que c'est et qu'on arrête de fantasmer, parce que le problème de l'IA au sens large, hein, pas que l'IA générative, c'est tout le fantasme qu'on a derrière dans nos sociétés avec tout le passé sur tout ce qu'on a culturellement sur la science-fiction, les films, les livres, etc., où on voit tout le temps la technologie en tant que telle devenir très forte et asservir l'homme, asservir l'humanité, parce qu'elle serait plus forte que nous, plus rapide, etc. Ce qu'on voit actuellement, en tout cas des outils actuels, je dis pas qu'il n'y a pas de danger, hein, mais en tout cas les dangers sont quand même assez loin pour moi, en tout cas de ce côté-là. Par contre, En revanche, quand on commence à mettre les mains dedans, on voit qu'il y a d'autres dangers beaucoup plus immédiats. Effectivement, sur certains emplois, en tout cas sur certaines tâches, il faut en prendre conscience. Voilà.
Moi, je rajouterais peut-être que effectivement, la grande question que ça peut poser, c'est est-ce que Microsoft va imposer ses outils par le biais de ses formations ? Parce qu'en fait, si on forme 1 million de personnes, mais qu'on les forme uniquement aux outils Microsoft, en termes de diversité, c'est vrai que c'est vraiment très compliqué. Si on forme 1 million de nouveaux Français à l'IA, peut-être que ça serait bien qu'il y ait une petite diversité d'outils. Alors certes, certains outils Microsoft, mais pas que, et qu'on puisse se former à quelques outils ouverts, libres. On aime bien le libre sur Cause Commune. Ben écoutez, nous sommes arrivés au terme de cette émission sur cette revue d'actu. J'espère que ça vous a plu à tous les deux et qu'on remettra ça prochainement. J'espère aussi que ça a plu aux auditeurs. Je vous remercie beaucoup d'avoir apporté vos éclairages sur ces sujets, d'avoir apporté les sujets d'abord et puis vos éclairages sur ces sujets.
Merci
à vous.
Merci.
On reste bien sûr sur Cause Commune, la radio des possibles. Il y a plein de programmes sur Cause Commune que vous pouvez découvrir sur causecommune.fm. Et donc, à trois voix, on vous dit à bientôt.
À bientôt.
Merci.